Vous écoutez, on lit pour vous.
Mon parent survivant meurt. Que faire? Un texte de Martine Le Tartre, paru le 15 avril 2026 dans La Presse. On n'a jamais envie de penser à quand son parent survivant, celui qui vivra le plus longtemps des deux, passera à son tour de l'autre côté. Il faudra, en plus de vivre son deuil, gérer une foule de détails administratifs, légaux et financiers. Petit guide en 5 étapes pour s'y retrouver. 1. Se préparer le plus possible en amont. L'idéal est que le parent dise d'avance à son enfant ce qu'il veut pour ses funérailles, où est son testament, et qu'il y joigne un inventaire de ses avoirs personnels, dettes et actifs numériques, comme ses photos. La Chambre des notaires du Québec a d'ailleurs préparé le document « Patrimoine », votre guide 360 pour ne rien oublier. On sait souvent ces informations pour son conjoint, mais moins pour ses parents, remarque Justine Elsliger, notaire et médiatrice familiale chez Simard Mona Elsliger Notaire à Alma. Ça fait vraiment une grosse différence en termes de temps et de frais lorsque l'enfance que son parent a est où. 2. Informer le gouvernement et contacter l'entreprise funéraire. Si son parent meurt dans sa résidence, Marc-Antoine Bernier, notaire et vulgarisateur juridique chez Éducalois, indique qu'il faudra faire le constat de décès par un médecin, une infirmière ou 2 policiers. Puis, il faut contacter une entreprise funéraire. Si on ne sait pas si son parent a des préarrangements funéraires, on en appelle une et on lui demande de vérifier dans le système centralisé, dit-il. Puis, l'entreprise viendra chercher le corps. Avec l'enfant, l'entreprise funéraire remplira ensuite la déclaration de décès et fera la demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs au décès pour aviser d'un coup plusieurs ministères et organismes publics. Le directeur de l'État civil préparera ensuite l'acte de décès et il faudra lui demander des exemplaires de ce document ou du certificat de décès. Puis, les funérailles seront organisées en respectant le testament ou pas si l'enfant n'a pas réussi à le trouver, ajoute Maître Elsliger. Le régime de rente du Québec rembourse un maximum de 2 500 $ pour les funérailles. 3. Faire la recherche testamentaire. Qu'on ait le testament en main ou qu'on soit convaincu que son parent n'en a pas rédigé, il faut faire une recherche testamentaire auprès de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec. On peut demander à un notaire de la faire ou la faire soi-même, mais les délais peuvent être plus longs, indique Maître Elsliger. Si son parent a un testament qui n'a pas été fait devant un notaire, il faudra le faire vérifier pour prouver qu'il est authentique. Les notaires ont une procédure simplifiée pour faire ce travail, mais cela demeure complexe et ça prend plusieurs mois, voire une année, précise Maître Bernier. 4. Trouver le liquidateur. Il faut ensuite voir qui sera le liquidateur. Si personne n'est nommé dans le testament, la tâche reviendra aux héritiers qui pourront aussi désigner une personne à la majorité. La succession pourra ensuite commencer à être réglée. Il faudra ouvrir un compte bancaire au nom de la succession. Dès que la personne est décédée, c'est dans ce compte que les chèques qu'elle recevra devront être déposés, affirme Maître Elsliger. Tout l'argent de la personne devra en fait être transféré dans ce compte et le liquidateur devra continuer à faire les paiements dus, ajoute Maître Bernier. Puis, il devra faire l'inventaire des biens de la personne et ce sera publié au registre des droits personnels et réels mobiliers. On pourra ainsi voir si la succession est insolvable, donc si elle compte plus de dettes que d'avoirs. Dans ce cas, là où les personnes héritières peuvent renoncer à la succession par acte notarié, indique Maître Bernier. 5. Payer les dettes et distribuer les sommes restantes à la succession. Les prochaines étapes sont de faire la déclaration de revenus de son parent décédé, payer les impôts avec l'argent de la succession et obtenir les certificats de décharge au fédéral et de distribution des biens au provincial. Il confirme que tout leur a été payé, explique Maître Bernier. Il faudra ensuite rembourser les dettes et distribuer le reste de l'argent comme mentionné dans le testament. Le liquidateur doit tout documenter. Il est très important que le liquidateur se fasse guider dans les différentes étapes de la succession par des professionnels dont les frais sont payés, d'ailleurs, par la succession, affirme Maître Elsliger. Parce que s'il fait des erreurs, il peut se mettre à risque personnellement. Il faut prendre les mesures nécessaires pour protéger le patrimoine de la succession. C'était « Mon parent survivant meurt. Que faire ?» Un texte de Martine Le Tarte, paru le 15 avril 2026 dans La Presse.
L'exode de médecins anesthésiologistes fait craindre plus de délais en chirurgie. Un texte de Catherine Desautels de La Presse canadienne, paru le 16 avril 2026 dans Le Devoir. L'Association des anesthésiologistes du Québec, AAQ, s'inquiète de l'exode de ces spécialistes de la médecine périopératoire alors que certains envisagent de pratiquer hors Québec ou au privé, ce qui aurait des impacts importants sur l'attente en chirurgie. L'AAQ a réalisé un sondage auquel 397 anesthésiologistes ont participé, soit près de la moitié des médecins de cette spécialité. Les résultats montrent que 46 % des répondants disent avoir envisagé de se désaffilier de la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, pour pratiquer dans le secteur privé. De plus, près de 28 % des personnes sondées indiquent avoir déjà entrepris des démarches pour pratiquer la médecine à l'extérieur du Québec, que ce soit par des demandes de permis dans d'autres juridictions ou des discussions sérieuses avec leurs proches. Le docteur Nicolas Joly, président de l'AAQ, se dit préoccupé par une diminution du nombre d'anesthésiologistes dans le réseau public, car cela se traduirait directement par une réduction de la capacité chirurgicale. Autour de 140 000 personnes étaient en attente d'une chirurgie au Québec au début de l'année 2026. Les équipes s'épuisent. Un anesthésiologiste participe en moyenne à 600 à 700 interventions par année. Et pas seulement pour la chirurgie. Il est aussi présent pour les accouchements par rapport à la gestion de la douleur avec l'épidurale et aussi parce qu'on ne fait pas de césarienne sans anesthésiologiste au Québec. Il est aussi en demande en radio-oncologie, pour immobiliser le patient durant une intervention ou encore dans le domaine de la psychiatrie pour pouvoir procéder à des électrochocs. Et si on a 600 à 700 interventions de moins parce qu'il y a un anesthésiologiste qui soit a pris sa retraite de façon précoce, a quitté la province ou est parti pour le privé, eh bien, c'est tout le réseau qui est fragilisé. Et pas juste le réseau. Les collègues aussi sont fragilisés, déplore le docteur Joly. Chaque jour, il y a plus d'une centaine d'anesthésiologistes à travers la province qui sont de garde, souvent sur place, pendant la nuit, pour offrir des soins d'urgence aux patients. Les petites équipes, quand elles perdent un joueur, la garde qui était aux 5 jours va être aux 4 jours. Il y a un cercle vicieux qui peut s'installer avec l'épuisement de ce qui reste, soulève le docteur Joly. Mauvaise utilisation des blocs opératoires. Le docteur Joly n'a pas de chiffres précis quant au nombre d'anesthésiologistes qui ont quitté le réseau public, mais l'AAQ dit suivre les démarches qui sont faites pour pouvoir exercer hors Québec. Le contexte politique tendu de l'automne dernier n'est pas étranger à la situation, selon le docteur Joly. La Fédération des médecins spécialistes du Québec, FMSQ, n'a toujours pas conclu d'entente avec le gouvernement. Dans le contexte des négociations, le docteur Joly souhaite attirer de futurs collègues avec des conditions de pratique acceptables. On souhaite participer aux discussions, puisqu'on a des solutions pour améliorer la production. Je pense que ce n'est plus seulement une question de nombre, mais aussi de bonne utilisation des ressources, au bloc opératoire en particulier, où on est présent de façon continue, fait valoir le président de l'AAQ. Il expose plusieurs aberrations dans la gestion des blocs opératoires. Des patients qui étaient à l'horaire sont parfois annulés en raison des retards accumulés. Par exemple, des formulaires de consentement non complétés ou la longueur de l'entretien ménager. Sans système de rappel de rendez-vous, il arrive aussi qu'on oublie de valider la veille la présence du patient pour son opération. L'équipe de chirurgie est donc prête à opérer, mais sans patient. D'autre part, l'AAQ s'inquiète de la situation dans certaines régions intermédiaires où la disponibilité des anesthésiologistes pourrait devenir plus fragile au cours des prochains mois, créant un risque de découverture de services. Par exemple, en Mauricie, centre du Québec, en Outaouais, en Montérégie ou en Estrie, si les plus petites équipes perdent un joueur, ça crée une mauvaise spirale qui diminue l'accès. Le docteur Joly précise qu'il n'y a pas d'enjeu d'accès aux chirurgies urgentes. Par contre, les petites équipes s'épuisent, car elles ne peuvent pas être de garde 72 heures de suite. À un moment donné, il faut qu'ils prennent une pause pour leur sécurité à eux, mais aussi la sécurité des patients. Et dans certains cas, ça peut vouloir dire avoir un corridor de service avec un autre hôpital si jamais l'équipe ne peut plus absorber la récurrence trop fréquente de la garde. Le sondage de l'AAQ a été réalisé entre le 6 et le 11 mars 2026. C'était l'exode de médecins anesthésiologistes fait craindre plus de délais en chirurgie. Un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 16 avril 2026 dans Le Devoir.
Je ne travaille pas pour un système de santé. Un texte de Céline Lamy, paru le 14 mars 2026 dans Le Devoir. L'autrice est pédopsychiatre et psychiatre. Elle a récemment publié « Pour une biodiversité de l'enfance, de la fabrique à la forêt » aux éditions XYZ. Musillard. Une chorale regroupant des patients en psychiatrie de l'Hôpital général de Montréal a été sauvée in extremis par des donateurs privés et l'organisme Les Impatients, ce qui permet de la maintenir, mais ailleurs, pendant 2 ans. Après, on verra. La nouvelle devrait nous réjouir, sauf que le sursis de cette chorale destinée aux patients atteints de troubles psychiatriques active depuis 1998 pointe un nouveau désinvestissement du gouvernement vis-à-vis de nos patients. La psychiatrie, parent pauvre de la médecine, offre une expression chaque jour plus évidente de ce retrait. « Oh, mais après tout, diront certains, ce n'est pas le fait de pousser la chansonnette qui guérit les gens, hein? » C'est vrai. Ce projet permettait juste aux patients de partager un temps de rencontre, d'échange, donc du lien, mais finalement, on peut se connecter en ligne, car le système a pensé à tout. Cette chorale permettait aussi aux patients de bénéficier des effets, reconnus scientifiquement, de la musicothérapie. Quand même. Mais une chanson rapporte moins qu'un cacheton, une pilule, au système capitaliste. On le sait. Aucun intérêt donc ici. Et les gestionnaires sont clairs. Ce n'est pas un service essentiel. Donc, Santé Québec n'investit pas. Quand je lis ce genre de nouvelles, je me dis qu'on devrait cesser d'appeler notre système un système de santé. Parce que, de toute évidence, on n'a rien compris de ce que sont la santé et ses déterminants. Guérir, c'est beau, c'est noble, mais idéalement, avant de guérir, on pourrait prévenir. Prévenir la survenue de la maladie, prévenir sa rechute, prévenir son aggravation, prévenir le développement de troubles dits comorbides qui surviennent parce que, justement, les patients sont isolés, invisibilisés et considérés comme des numéros dans ce réseau. Parce que tout est centré sur le malade, sa maladie et son plan de traitement. Le curatif, en somme. Pourtant, en psychiatrie, mais aussi comme cela devrait être partout en médecine, le soin, ce n'est pas que cela. Il est aussi fait de tous les à côté. Parce que la racine du mot « soin » ne veut pas dire « guérir », mais « se préoccuper d'eux ». Et si on avait un vrai système de santé, qui ne se sentirait pas hôte uniquement dans l'action quand la maladie est là, comme dans toutes les séries télémédicales où l'on a le sentiment que l'adrénaline est le carburant du soin, et où l'on ne se sent jamais aussi vivant que quand on a réussi à sauver un patient en urgence avec un trombone et un stylo en guise de trachéotomie. Non, ce n'est pas cela, le système de santé. Ça, c'est un système qui réagit à la maladie, mais c'est aussi un système qui ne fait rien ou pas grand-chose pour la prévenir. La santé, et surtout la santé mentale, elle, nécessite du lien, du temps, du partage, des échanges. Elle nécessite que la confiance puisse se placer tranquillement pour que l'histoire se dise, les traumatismes se dévoilent, pour que ce qui est caché, parce que jugé honteux par le patient et pointé du doigt comme tel par tant d'autres, puisse se découvrir, petit à petit. Pour que la tension interne et les crispations diminuent, que le corps puisse se délier et peut-être, ne serait-ce que le temps d'une chanson, tiens, ressentir autre chose que le poids du trouble. Le système de santé nécessite des lieux et pas juste un bureau médical, un lieu pour se déposer un peu, pour élever la voix, pour la faire jaillir. Elle est si souvent bâillonnée, cette voix, ou, si elle est osée par le patient, elle est alors souvent non écoutée, banalisée, détournée ou muselée. On voudrait un système qui considère que cette chorale et les autres initiatives de soins et de liens qui l'habitent sont véritablement essentielles et vitales pour nos patients. Un système de santé qui, pour reprendre Lévinas, une fois qu'il a vu le visage de chacun, a une responsabilité infinie à son égard, une dette symbolique, éthique, qui ne devrait pas lui faire détourner le regard, qui fait que chaque visage sort de l'anonymat et que chaque voix se fait entendre. Ces moments partagés dans cette chorale, entre autres, c'est aussi ça, un système de santé. Un système de soins réels, ce sont donc aussi tous les à-côtés qui le composent, cette chorale, ce groupe d'ados avec lesquels je pars en forêt, cet atelier de théâtre, cette activité de cirque, ce moment d'arrosage de mes plantes avec ce patient autiste dans mon bureau. Les soins en psychiatrie, surtout, sont pluriels et convoquent toutes les sphères de vie du patient, remettent un peu de beau, de doux, de créatif et de vivant dans un quotidien parfois extrêmement sombre où l'abîme n'est jamais bien loin et où la noirceur de la pensée est un cavalier envahissant. Ces à-côtés réhumanisent et relient les gens, restaurent la dignité bafouée non seulement par la maladie, mais aussi par les institutions. Alors, j'ai honte qu'on ose parler de système de santé quand on fait des coupes dans ce qui est vital pour nos patients. Cela n'en fait rien d'autre qu'un système interventionniste qui réagit quand le mal est déjà là. Je travaille visiblement pour un système de maladie, pas un système de santé. C'était « Je ne travaille pas pour un système de santé », un texte de Céline Lamy paru le 14 mars 2026 dans Le Devoir.
Texte d'opinion. Caribou. La Presse. Recherche. Francine Thériault. On a perdu 10 ans. Un texte de Jean-Thomas Léveillé paru le 5 avril 2026 dans La Presse. 10 ans se sont écoulés depuis que le gouvernement québécois a annoncé son intention d'élaborer une stratégie pour freiner le déclin du caribou forestier. Une décennie plus tard, le plan se fait toujours attendre. Mais le déclin du cervidé, lui, s'est aggravé. Pour notre avenir et celui de nos enfants. Le communiqué publié dans la matinée du 5 avril 2016 ne manquait pas d'enthousiasme. Protéger notre environnement, et plus spécifiquement l'habitat du caribou, c'est en quelque sorte se donner une assurance nature pour notre avenir et celui de nos enfants, y affirmait le ministre libéral de l'Environnement de l'époque, David Hurtel. Québec annonçait ainsi un plan d'action en 2 phases pour la conservation de l'habitat du caribou forestier. D'abord des mesures de protection ciblées, immédiates, puis l'élaboration d'une stratégie à long terme d'aménagement de l'habitat du caribou forestier, une feuille de route qui aurait dicté les mesures à prendre à l'échelle du Québec. 10 ans plus tard, cette stratégie est pour ainsi dire prête, mais dort toujours dans les tiroirs du gouvernement. L'urgence d'attendre. Je ne sais pas ce que ça va prendre. Pour que Québec accouche de sa stratégie, lance la doyenne de la faculté de foresterie de l'Université Laval, Nancy Gélina, qui a présidé la commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards en 2022. On rapportait qu'il y avait vraiment urgence d'agir, rappelle-t-elle. Beaucoup de choses ont été faites, comme des études et inventaires pour documenter l'état des populations de caribous, reconnaît Mme Gélina. Mais c'est le passage à l'action qui fait défaut. La chercheuse est directement touchée par cette tergiversation qui retarde le démarrage de projets de recherche dans la forêt expérimentale de 400 km² de l'Université Laval, prête à tester de nouvelles approches sylvicoles visant à protéger l'habitat du caribou. Ignorer la science. On a perdu 10 ans. Se désole le biologiste Martin-Hugues Saint-Laurent, une des sommités au Québec sur le sujet. À la fois pour le caribou et pour les communautés forestières, souligne-t-il. Car une stratégie de protection de l'habitat du caribou devrait autant déterminer des niveaux de perturbation maximum, repenser les activités forestières ou préserver les vieilles forêts que prévoir la transition des économies régionales concernées, explique-t-il. Ça pourrait tenir en 25 pages, lance-t-il. L'idée, c'est d'avoir une ligne de conduite claire qui a des chances de fonctionner. M. Saint-Laurent déplore que le gouvernement écoute la science quand ça fait son affaire, comme pendant la pandémie de COVID-19, mais pas pour le caribou. Rajeunissement des forêts. Pendant la dernière décennie, le gouvernement a continué de voir la forêt comme une simple source de revenus, laissant l'industrie la rajeunir au mépris des principes d'aménagement durable, déplore Pierre Drapeau, qui a été de 2010 à 2022 directeur du Centre d'études de la forêt, réunissant des chercheurs et chercheuses de 11 universités québécoises. L'inaction, c'est un choix, c'est une décision, lance le professeur Pierre Drapeau, qui relève que cette inaction n'a même pas profité à l'industrie forestière, toujours en difficulté. Le caribou, c'est le canari dans la mine, qui témoigne de la disparition des vieilles forêts et de leurs écosystèmes uniques, dit-il. Puissant lobby. Même si le ministère de l'Environnement travaille fort pour protéger le caribou, l'influence du lobby de l'industrie forestière sur les élus et les hauts fonctionnaires a probablement eu un impact sur le fait qu'on n'a toujours pas de stratégie en ce moment, accuse Pierre-Olivier Boudreau de la Société pour la nature et les parcs. Le biologiste déplore que les effets négatifs de la protection de l'habitat du caribou soient toujours mis de l'avant, mais jamais les bénéfices. « On n'a pas les bons cadres de prise de décision », dit-il, regrettant aussi que Québec ait levé le nez sur les dizaines de millions de dollars proposés par Ottawa pour venir en aide aux caribous et aux communautés forestières. Mauvais film. « Il y a bel et bien une stratégie », ironise l'écologiste Henri Jacob de l'Action boréale. « La stratégie, ça a toujours été de remettre à plus tard, aux prochaines générations. » Le milieu écologiste a mis énormément de temps et d'énergie dans la dernière décennie à proposer des solutions, la plupart du temps ignorées, ajoute Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec. Le gouvernement nous fait jouer dans un mauvais film depuis 10 ans, dit-elle. Pendant ce temps, Québec viole ses propres lois en ne protégeant pas adéquatement le caribou. S'indigne Claude Dussault, biologiste, retraité du gouvernement québécois, qui a consacré sa carrière à la protection du caribou. « De toute évidence, dit-il, ça ne dérange pas grand monde. » Moins d'argent que pour Norvolt. La stratégie de protection de l'habitat du caribou est toujours en cours d'élaboration avec les partenaires du milieu, affirme le ministre québécois de l'Environnement Benoît Charette dans une déclaration transmise par son cabinet. Il a décliné la demande d'entrevue de la presse. Mais Québec n'avance aucun échéancier. Le ministre Charette souligne que son gouvernement a consacré dans la dernière décennie près de 70 millions de dollars à la protection du caribou et de son habitat, notamment pour la construction d'enclos pour les garder à l'abri des prédateurs et pour des inventaires plus précis des hardes. C'est environ 4 fois moins que les 270 millions perdus par Québec dans l'aventure Northvolt ou que les 275 millions accordés à l'avancement du projet de 3e lien entre Québec et Lévis. C'était « On a perdu 10 ans », un texte de Jean-Thomas Léveillé paru le 5 avril 2026 dans la presse.